Quatrième et dernière partie de l'entretien avec l'écrivain fantôme Bruno Tessarec, un entretien enregistré en octobre 2018, une interview de Margot Delpierre sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
Avec qui vous rêveriez d'écrire un livre ?
Avec qui ? Oui, je sais, mais ça ne se produira jamais. Je rêverais d'écrire un livre avec un grand créateur. Pas évidemment un écrivain. Je ne sais pas. Tiens, ben par exemple, j'évoquais Christian Pellerin avec qui j'ai travaillé comme promoteur. Christian Pellerin, promoteur avec qui j'ai travaillé. Je sais pas, si vous voulez, les mémoires de Jean Nouvel, ça me fascinerait, ou bien un grand peintre, un créateur, ou un grand chef d'orchestre, vous voyez, quelqu'un qui se coltine à la création dans un autre registre que le mien, qui est l'écriture, et qui a réussi remarquablement, vous voyez.
Une sorte de génie.
Oui. Ça m'intéresserait énormément. Mais ça risque pas de se produire parce que ce sont des livres, les mémoires de Jean Nouvel, ils en vendraient 8500. C'est pas des livres qui intéressent les gens.
On dit d'un livre qu'il s'est bien vendu quand on en vend combien d'exemplaires à peu près ?
Vous savez, ça dépend de la mise de départ. Parce qu'il y a des avaloirs qui ont été offerts, à des gens connus dont on espérait que leur mémoire ferait un tabac, qui sont considérables. Donc, si vous voulez, là, on rentre dans la gestion. Si la valoir est très faible et que la fabrication n'a pas coûté cher, à la limite, le point mort d'un livre comme ça, ou d'un romancier à qui on verse un avaloir de 5000 euros, le point où l'éditeur commence à gagner de l'argent et où on peut considérer, guillemets, que c'est un peu un succès, ou du moins que c'est pas un échec, c'est quelques milliers d'exemplaires. Mais dans ces cas-là, les avaloirs sont considérables. Donc, le livre de Jean-Claude Camus, par exemple, c'est vendu, je crois, à environ 20 000 exemplaires. Je pense que l'éditeur a été ric-rac. Je pense, je connais pas les chiffres, mais d'après ce qu'il m'en a dit, ils n'ont pas perdu d'argent, mais ils n'en ont pas gagné beaucoup. Bon, vous vendez 20 000 exemplaires d'un roman, je peux vous garantir que vous gagnez un peu d'argent et tout le monde est content. Donc c'est très compliqué, ça. Ça dépend vraiment de l'argent investi, en fait.
Vous pouvez me dire celui qui a eu le plus de succès ?
Non. Mais je peux vous dire qu'il s'est vendu en grand format à 600 000 exemplaires. Grand format, ça veut dire la première édition, avant les poches, avant les traductions, etc.
Mais ça, c'est quelqu'un du spectacle ? C'est un homme politique ?
Non, je ne peux pas vous dire.
Vous faites tous les domaines de toute façon ?
Spectacle, pas trop en fait. Je fais plutôt... Non, parce que alors ça, c'est Dan Frank qui a fait beaucoup de gens de spectacle, d'artistes, de chanteurs, etc. Ça, il paraît que c'est pas facile. C'est pas facile parce que sortis de leur art, ils ont pas forcément, enfin de leur art, de leur travail, ils ont pas forcément grand chose à raconter. Ils ont des égos, ils passent pas par une double porte ouverte, si vous voulez, tellement ils ont la grosse tête et ils sont souvent assez. J'ai failli faire, par exemple, un livre. Avec un footballeur. Ça a foiré. Je vais vous dire pourquoi. À cause des rendez-vous. C'est-à-dire que les rendez-vous étaient systématiquement reportés à la dernière seconde. Au bout du troisième ou quatrième, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit à l'éditeur, écoute, trouve quelqu'un d'autre. Moi, en plus, j'habite en province, faut pas trop se foutre de moi, quand même. Mais voilà, c'est des gens comme ça, si vous voulez. Et je sais, par exemple, que Dan Frank, il a ramé avec certains artistes très connus parce qu'ils sont infernaux, quoi, vous voyez.
Chaque écrivain fantôme a son genre ?
Un peu, quand même, je crois, oui. Oui.
Donc vous, c'est plutôt politique, c'est plutôt...
Alors politique, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai écrit deux livres avec quelqu'un qui, à l'époque, n'était pas très très connu, puis qui l'est devenu après. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est vous qui trancherez. C'est Jean Lassalle. Vous voyez qui c'est ?
Dont vous parlez dans le livre. Vous parlez d'un Béarnais.
Oui. Lui, ça a été épique. Ça a été épique. En même temps, au bout d'un moment, j'en avais marre, mais à un point, je n'en pouvais plus.
Du personnage ?
Ah ben du personnage, parce qu'il est exactement, plutôt même un peu plus compliqué que l'image que tout le monde en a, qu'on voit à la télé.
C'est pas un rôle pour la télé ?
il part en vrille. Ah, en même temps, à contre-emploi, il est remarquable parce que il est tellement. Il part en vrille, il va vous parler, d'un seul coup, il va vous dire écoute, on va s'arrêter de parler parce que tu vois le rayon de soleil qui passe là et qui te passe sur la table. Mais mon petit, mais qu'est-ce que nous faisons là? Nous voyons pas les choses essentielles. Toi, comme écrivain, moi, comme homme politique, qu'est-ce que nous faisons là? Et puis, je pense que là, ça serait le moment de commander quand même un petit alcool parce que nous travaillons depuis trois quarts d'heure, nous commençons à être fatigués. Et de toute façon, j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Donc, une fois que nous aurons fini de contempler ce rayon de soleil et de boire notre verre d'alcool, je serai obligé de t'abandonner, mon ami. Et nous nous retrouverons à 14h. Bon, mon Jean, d'accord, à tout à l'heure.
Mais c'est à s'arracher les cheveux.
14h, 15h, ben pourquoi vous croyez que j'en ai plus beaucoup? 14h, 15h, 16h, 18h, 19h, la salle est toujours pas reparue. Donc, au bout d'un moment, vous... Et puis... Je me rappelle très bien avec Jean, d'abord il est très émouvant parce qu'il a un côté, c'est quelqu'un par exemple, je vous fais le coup avec le rayon de soleil sur la nappe là, mais il peut se mettre à chanter un chant béarnais d'un seul coup.
Imprévisible.
Il vous dit, oh tu sais, je vais quand même chanter un peu parce que tu sais que j'ai chanté déjà dans l'hémicycle, je me suis fait rappeler à l'ordre par le président de l'Assemblée, donc je peux bien chanter dans ton micro, et oh, il se met à chanter. Bon. Donc il y a un moment donné, avec Jean, j'étais au bord de la rupture, je me disais, ce mec est absolument ingérable, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, alors, on retrouve la dimension romanesque. Je me suis dit, bon, j'ai en face de moi un personnage de roman que personne ne pourrait inventer. Vous savez, la réalité dépasse la fiction. Je me suis dit, je vais le prendre comme tel, comme une espèce de... comme un entomologiste rencontre un insecte qui est répertorié nulle part. Je me suis dit, La Salle, c'est un ovni. Et c'est comme ça, rappelez-vous, la campagne présidentielle, si vous avez vu des débats, c'était un ovni. Il ne savait pas des chiffres, les chiffres qu'on lui donnait. Il disait, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas à ça, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, c'est devenu une ambiance pittoresque. C'est très méchant ce que je vais dire. J'avais l'impression d'aller au musée Grévin ou au jardin des plantes, voir des choses qu'on ne voit pas dans la vie ordinaire. Mais ce n'était pas facile. Alors les autres hommes politiques, j'ai pas écrit pour eux, parce que contrairement à ce que le public pourrait s'imaginer, les livres, les mémoires d'hommes politiques ne marchent pas du tout, du tout, du tout.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on en trouve à chaque rentrée énormément.
Et ça ne marche pas. Il y en a un sur 50 qui dépasse les 5000 exemplaires.
Qu'est-ce qui marche alors? Les artistes?
Les gens connus.
Les sportifs?
Oui, les gens connus, les gens qui ont... Ben, si vous voulez, dans mon cas, les trois livres dont je vous ai parlé, qui à eux trois ont fait plus d'1 million d'exemplaires, il y a cette personne que je ne peux pas vous citer, et qui elle-même n'a pas su qui lui écrivait son livre, ce qui est quand même totalement fabuleux. Je vous raconterai une anecdote après, j'ai évoqué Dumas tout à l'heure. Si vous avez le temps, je vous raconterai une anecdote très amusante à laquelle j'ai repensé quand cet épisode s'est déroulé. C'est-à-dire, surtout, ne sors pas du bois parce que X ne saura pas que c'est quelqu'un d'autre que son interlocuteur qui écrit le livre. Fabuleux. Donc, cette personne, une autre personne pour qui j'ai écrit, qui est un très très grand sélectionneur de foot, et la troisième personne, c'est Nicolas Hulot. Vous voyez, c'est des gens très différents. Mais malgré tout, c'est des gens très connus, personnalités. Du reste, petit secret de fabrication, les éditeurs, il y a des chiffres qui regardent avant tout le monde, c'est les personnalités préférées des Français. Et ils essayent de les capter pour avoir leur livre.
Les Michel Simès...
Oui,
les Nagui, Omar Sy,
ils regardent. Alors oui, mais dans toute profession, il y a un classement tous les mois, je crois, des personnalités préférées des Français, politiques, médias, etc. Cette liste, elle est épluchée par tous les éditeurs.
Ils regardent ça comme le cours de la bourse.
Encore, voilà, non, qui n'a pas encore écrit ses mémoires et qu'on peut contacter. C'est souvent une des méthodes de fabrication, si vous voulez. De la même façon, quand vous voulez faire un bon plat chez vous, vous allez ouvrir un bouquin pour savoir, tiens, une bonne recette originale et tout. Eux, ils regardent la liste des personnalités préférées des Français. Ils pointent ceux qui n'ont pas écrit de livre ou qui n'ont pas écrit depuis longtemps. Et ils les contactent. C'est un peu le truc. C'est drôle. Alors, je vais vous raconter une anecdote très, très amusante. J'ai évoqué tout à l'heure Dumas comme étant le premier à avoir utilisé des écrivains fantômes. Un jour, Dumas, il travaillait avec plusieurs personnes. Hein. Le plus célèbre étant Baquet, dont on dit qu'il a pratiquement écrit la saga des Trois Mousquetaires, quand même. Hein. Parce que, par parenthèse dans mon récit, quand Baquet meurt, il meurt bien avant Dumas, les livres de Dumas, d'un seul coup, les titres, je vous les citerai, vous ne les connaissez même pas. C'est-à-dire que tous ceux qu'on connaît de Dumas, les romans célèbres, c'est du temps où il y avait Maquet. Ça en dit quand même long. Non pas que Dumas n'avait pas de talent, mais voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, Dumas travaillait avec plusieurs collaborateurs ou secrétaires, comme il disait. Et donc un jour, un journal, c'était le début des feuilletons, dans les années 1840, par là, un journal lui demande « Maître, auriez-vous ben, bien sûr, pas de problème. » Alors, il dit « Je vais créer une histoire, je vous dis n'importe quoi, qui se passe à la Renaissance, machin, etc. » Alors, il convoque un de ses secrétaires, il lui dit « Bon, voilà, voilà la trame, voilà le personnage, vous allez me faire ça, ça va paraître en feuilleton. » Très bien. Il lit les premiers épisodes, il trouve ça très bien, il fait quelques corrections, puis après il dit oh, « vous êtes lancé, allez-y, faites-le tout seul ». Bon, très bien. Le roman paraît par chapitre et par feuilleton dans la presse. Et puis un jour, un autre collaborateur de Dumas rentre et lui dit « Maître, il y a une catastrophe. Laquelle ? X, l'écrivain fantôme. Nègre, dit-on, vient de là. » Parce que Dumas était créole, mais il y avait quelqu'un de plus sombre derrière lui, et on l'appelait le nègre. C'est de là, paraît-il, que vient l'appellation de nègre. Donc, le secrétaire dit à Dumas, X a une crise cardiaque, il est mort cette nuit. Donc, il ne peut pas livrer les épisodes suivants du feuilleton. Ah. Dumas dit, je vais m'y coller. Je ne vois pas comment je peux faire autrement. Sauf le problème, c'est que ça fait des semaines ou des jours que je n'ai pas lu. Donc, vous précipitez au journal, sous un prétexte quelconque, vous demandez toute la série depuis la première, qu'au moins je vois quel épisode suivant, puis après je m'organiserai. Mais pour leur donner la copie, je vois un peu de quoi il s'agit. Mais faites vite, hein, parce qu'il faut qu'on rende la copie à 3 heures, par exemple. Bon, c'était 10 heures du matin. Le secrétaire revient une heure après, à nouveau décomposé. Alors Dumas lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez les exemplaires? L'autre lui dit, non mais c'est pas la peine, maître. Ils ont reçu les prochaines copies. Moment de flottement. Explication. Le nègre que faisait travailler Dumas, et qui était mort la nuit précédente, faisait lui-même travailler quelqu'un d'autre qui a continué à livrer. Extraordinaire.
C'est une usine.
C'est une usine. Mais, vous savez, essayons de rendre un petit peu de panache à cette profession. Rubens, qui est quand même pas le plus mauvais de tous les peintres de l'histoire de la peinture, faisait travailler 30 collaborateurs.
Oui, dans la peinture, c'est ce que j'allais
dans la
vous
peinture,
dire, ça se faisait souvent.
Absolument.
On appelait ça des écoles.
Oui, ou des ateliers. Oui. Donc c'est amusant de voir des professions qui circulent comme ça un peu, comme ça, d'un art à l'autre. Voyez et quand vous voyez aujourd'hui les mises en scène de pièces classiques du répertoire, et que vous voyez les libertés que s'autorisent certains metteurs en scène avec des trucs complètement délirants, vous vous dites, bon, quelle est la part, à quel moment on mord sur la place de l'autre ? Vous voyez ? Un peu comme dans mon métier. À quel moment, moi, je finis par deux ? Et alors, un aspect psychologique. Il y a toujours un moment dans ce travail qui est difficile. Parfois, on l'esquisse, et on le franchit assez facilement. Parfois, en revanche, ça bloque un peu. Ce moment, je vais vous le dire, c'est quand la personne pour qui vous travaillez se rend compte que vous êtes devenu que vous, qui êtes en face de lui, qui êtes à la limite à son service, vous avez pris sa place. Le serviteur devient le maître. Celui qui dit « je », c'est plus lui, c'est vous. Et donc, cette personne qui a eu besoin qu'on l'aide à mieux s'exprimer, se rend compte qu'il y a comme une... Enfin, je ne veux pas faire de grands mots non plus, mais il y a presque comme une forme de dépossession de soi. Et j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit, non mais dites donc, quand précisément vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de faire un peu du roman, non mais dites donc, pour qui vous prenez d'écrire ça sur moi ? C'est très, très intéressant. Et là il y a un sentiment de dépossession. Il peut y avoir ce sentiment de dépossession. Il faut savoir le gérer psychologiquement. Il faut dire, mais non, mais parce que ce que tu me racontes m'inspire et donc je me suis permis de... Mais t'inquiète pas, on l'enlève. Ça soulage les gens. Et ce n'est pas forcément des aveux qu'ils ne veulent pas qu'ils soient publics. Mais si vous avez très bien compris quelqu'un, sans même le vouloir, votre plume va aller un peu plus loin que ce que lui... Ou il va découvrir quelque chose en vous lisant. Sauf qu'il ne vous lit pas, je. C'est, si vous voulez, les premières tribus d'Amazonie découvrant le miroir, vous voyez. Donc, on leur tend un miroir. Ce miroir, c'est mon image. Mais c'est le miroir.
Mais alors, si ça les frappe, c'est que c'est juste.
Ah oui, souvent c'est juste, oui. Souvent c'est juste. Et ça les dérange, justement.
Vous avez des projets à venir en tant qu'écrivain fantôme ?
Oui.
Dont vous ne pouvez pas parler ?
Si, je peux en parler avec facilité parce que j'ai été invité dans l'émission de Drucker à l'occasion du premier livre qu'on a fait ensemble et que c'est devenu un ami. Et là, on travaille vraiment la main dans la main. On peut dire que c'est un travail. C'est Laurent Gérard, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui est un être délicieux, très intelligent, d'une sensibilité à fleur de peau, d'une générosité hors norme, à tout point de vue, générosité matérielle et intellectuelle, et qui est quelqu'un de formidable. Et à l'idée de refaire un livre avec lui, on en a fait un premier sur son grand-père, etc., qui a très, très, très bien marché du reste. C'est vraiment... Alors là, je suis ravi de cette idée-là.
Et pour le coup, vous êtes nommé.
Oui.
Vous êtes sur la couverture comme le
co-auteur.
Non, je ne
suis pas
vous
sur la couverture, mais il me remercie. Et puis je vous dis, pour le premier livre qu'on a fait, il m'a invité à l'émission de Drucker en disant...
Mais c'est vous qui l'écrivez.
Bon, on écrit beaucoup à deux.
Ah oui.
Il a des carnets, il a des notes, Ça, c'est intéressant, ça.
Donc, il y en a qui s'impliquent.
Ah oui. Ah oui. Ah ben, comment dirais-je ? Pour la faire brève, je vous dirais, j'ai une formule, c'est du zéro à l'infini. Il y en a qui ne s'impliquent pas du tout, mais pas du tout. Et il y en a d'autres, comme Laurent, c'est même pas une implication. Ils sont complètement dedans, et ils vous téléphonent en se disant « Dis donc, j'ai pensé, là j'ai relu, non, là il y a un truc. » Et là, c'est passionnant, quand en plus la personnalité est riche et drôle en plus, parce que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point Laurent Gérard est drôle. Mais c'est extraordinaire, c'est même plus du travail.
Là, vous écrivez à quatre mains, c'est peut-être encore plus plaisant.
Oui.
Que d'écrire seul. C'est différent.
Je me rends pas compte, est-ce que c'est plus facile, moins facile, mais c'est tellement riche, humainement parlant, que c'est formidable. Formidable. J'ai fait aussi un livre dans un genre plus, pas plus sérieux, mais dont l'issue a été plus dramatique. J'ai eu la chance de rencontrer Sacha Distel peu de temps avant son décès, et il avait un projet, effectivement, d'écrire ses mémoires. Il avait jamais écrit une ligne. Et on a travaillé ensemble. Et je voyais bien qu'il était quand même pas bien du tout, même s'il le disait pas. Et il est mort effectivement avant même la sortie du livre qu'on n'a pas pu terminer. Impression très émouvante aussi. Le livre, bon, bah, il racontait ses amours, ses son immense succès jeune et ses succès après, etc. Donc, d'une certaine manière, c'était pas non plus, c'est pas ça qui a changé la face du monde. Mais voir cet homme qui était clairement au bout du rouleau, dont la carrière était terminée, parce qu'il y avait eu en plus une sorte de scandale, je ne sais plus très bien lequel, qui avait mis un terme brutal à sa carrière, et qui était un monsieur qui avait 70 ans à l'époque, à peu près, qui était très beau, très malgré son cancer, qui avait une gueule formidable, etc. Et savoir, très vite j'ai compris que le compte à rebours avait commencé, c'était humainement très émouvant. Et il s'accrochait, je l'ai eu au téléphone deux jours avant son décès, il me parlait du texte que je lui avais envoyé, là je pense qu'il faudrait qu'on fasse ceci, cela. C'est aussi des belles rencontres, parce que vous découvrez quelqu'un que les gens ne connaissent pas nécessairement.
Vous êtes dans l'intimité.
Oui. Et ça c'est émouvant quand même.
Vous diriez que c'est un beau métier ?
Ah oui, c'est un beau métier. Faut pas rougir de ce qu'on fait, si on rougit, faut pas le faire. Mais parfois, je me suis dit, je vous évoquais tout à l'heure Jean Lassalle, il y a des moments, je me suis dit, non mais qu'est-ce que je fais là ? Il se fout vertement de moi, quoi. Mais non, il se fout pas de moi, il est comme ça avec tout le monde. Donc, il y a quelque chose d'attendrissant. Si c'est pas une rencontre humaine, ça vaut pas la peine.
Merci Bruno Tessarec.
Merci beaucoup à vous.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Merci encore à Bruno Tessarec, invité de Backstage, podcast monté et mixé avec amour par Thomas Langlin.